Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
L'agneau qui a été immolé pour nous. À lui la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Ô Dieu, tu as voulu t'identifier à l'homme. Et dans ta mort, tu t'es identifié à ces agneaux qui ont été présentés dans l'Ancien Testament pendant des années et des années et des années, des centaines d'années, en sacrifice pour le péché des hommes, symbole de celui qui viendra un jour, l'agneau de Dieu offert pour les péchés des hommes. Comment exprimer notre reconnaissance, Seigneur? Comment exprimer notre amour? Tu as tant fait pour nous. Nous savons, Seigneur, que c'est toi, toi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et devant ta majesté, nous nous prosternons. Parle-nous, s'il te plaît. Que toi, tu sois vu, toi seul, non pas l'homme de chair, sauvé même, sauvé par grâce, mais que toi, Seigneur, tu puisses communiquer la vie aux hommes ce matin encore. Une vie nouvelle, une vie changée, une vie transformée, une vie éternelle. Merci, Père. Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je sais qu'il y a, ici dans cette église, nous avons déjà beaucoup parlé de Jésus le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, de son règne, tant de choses, et pourtant, on n'a jamais épuisé le sujet. Jésus le roi de la nouvelle terre. Quand Jésus disait aux pharisiens, nous voyons cela dans Jean au chapitre 8, verset 23. Lorsqu'il disait aux pharisiens, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Il parlait de son lieu d'origine. Son royaume n'est pas de ce monde, car il n'est pas du monde. Et il n'a pas son origine dans le monde, Jésus. Son royaume n'est pas contaminé par ce monde pécheur. Quand Jésus se tenait devant Pilate, il lui dit, dans Jean 18, 36 à 37, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde. Voici pourquoi je suis né. Ceci ne veut pas dire qu'il a commencé à exister depuis le jour où il est né. Oh non! Jésus vit de toute éternité, identifié à Dieu, Dieu manifesté en chair. Il vit de toute éternité. Du reste, nous le voyons dans l'Ancien Testament, ce Jésus. Non pas sous le terme de Jésus, non, sous le terme de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, nous pouvons très bien le distinguer dans l'Ancien Testament. Lorsque Josué allait engager la bataille pour Jéricho avec les armées d'Israël, il se tint devant l'ange de l'Éternel avec une épée à sa main. Mais quand Josué le vit, il se prosterna devant lui. Josué lui a dit, « Es-tu pour nous ou contre nous ?» Et il se prosterna devant lui. L'ange de l'Éternel accepta son adoration. Mais nous voyons que, bien plus tard, dans l'Apocalypse, Jean, avec toutes les visions qu'il a eues, et l'ange qui l'accompagnait dans ses visions, Jean, voyant toutes ces choses extraordinaires et merveilleuses, a voulu se prosterner devant l'ange. L'ange lui dit, « Garde-toi de le faire, je suis un serviteur tel que toi, adore Dieu seul. » Cet ange a refusé l'adoration de Jean. Tu dois l'adoration à Dieu seul. Mais cet ange qu'a vu Josué, c'était Dieu, sous la forme de l'ange de l'Éternel qui a accepté son adoration. Nous le voyons, cet ange de l'Éternel, combien de fois, lorsque les parents de Samson, Manoah et sa femme, lorsqu'ils ont eu la visitation de l'ange de l'Éternel, ils offrirent un sacrifice. Et ils dirent à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom ?» Et l'ange de l'Éternel leur a répondu, « Mon nom est merveilleux. » Alléluia. Et il est monté dans la fumée du sacrifice. Nous voyons cet ange de l'Éternel également, avec Gédéon. Frères et sœurs, il était l'ange de l'Éternel avant. Mais il a choisi celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Il a choisi de naître d'une femme, ce Jésus. Il a choisi de s'incarner. Voici pourquoi je suis né. Je suis né dans le monde. J'étais incarné à travers une femme dans ce monde afin de venir sauver l'humanité du joug de l'ennemi. Oui, je suis roi. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Si mon royaume avait été d'ici-bas, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mais voilà, je suis venu pour mener un combat seul. Seul. Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde. Je suis venu dans le monde pour reconquérir ma propriété. Quand il dit que son royaume n'est pas de ce monde, il ne voulait pas dire qu'il ne serait pas le roi un jour sur cette terre après l'avoir reconquise et transformée. Cette transformation, cette reconquête commençait dès l'instant où il était né dans ce monde. Oh, bien sûr! Quand Satan a vu ce petit bébé qu'il savait être l'incarnation du Fils de Dieu, il a ri. Parce que pour lui, l'homme a un commencement et une fin. Il s'est fait homme, c'est son commencement. Il aura une fin, ce sera sa mort. Du reste, dans l'Ancien Testament, à travers la Bible, toutes les résurrections qu'il y eut, par la puissance de Dieu, ceux qui sont ressuscités à cette époque-là sont morts une deuxième fois. Donc, pour Satan, tu as encore humain, tu t'es mis à l'échelle humaine, tu mourras un jour et terminé. Il ne savait pas. La mort ne pouvait le tenir entre ses griffes. Oh non, non. Mais il a choisi de prendre un corps tel que le nôtre, avec les limitations du corps humain, avec la fatigue du corps humain, avec le besoin de sommeil du corps humain, avec le besoin de nourriture du corps humain. Il a accepté de s'identifier avec l'humanité, d'accord, à part le péché. Sans péché, Jésus. Il est venu en mission. Et Satan ne le savait pas, car il ne sait pas tout. Satan n'est qu'une créature. Il est venu pour reconquérir ce qui lui a été usurpé à cause de la désobéissance de l'homme, à cause de la rébellion de l'homme. Il est venu reconquérir ce qui lui appartient. Et cette transformation, cette reconquête commençait alors même à travers sa personne, dès l'instant où il est né. Il a engagé un combat seul. Satan a voulu l'éliminer avec Hérode, qui a envoyé ses soldats pour tuer tous les petits-enfants de Bethléem. Dieu connaissant toutes choses, a fait évacuer Jésus, le petit bébé, avec ses parents qui sont allés en Égypte, selon un temps marqué par Dieu, pour échapper à l'épée d'Hérode. Frères et sœurs, nous pouvons paraître faibles comme un petit enfant, mais quand Dieu est en contrôle, nous sommes plus forts que Satan. Quand Dieu est en contrôle et que nous marchons avec lui, qu'avons-nous à craindre? Le secret de toute victoire, c'est de marcher avec lui. Cette transformation, cette reconquête commençait alors même à travers sa personne. Et c'est pour cela qu'il est venu dans le monde. Il est venu dans ce monde pour livrer bataille contre le péché, contre Satan, contre la maladie, contre la mort. Voilà pourquoi il est venu dans le monde. Mais Satan ne connaissait pas tout le plan de Dieu. Et il minimisait la puissance de Dieu. C'est ça l'orgueil. On se croit toujours supérieur. Mais l'orgueil mène au-devant de l'écrasement. Oui, c'était un processus plutôt lent qui a commencé d'une façon très humble. Il est né dans une étable. Pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Il a grandi sur cette terre. Petit bébé, il a besoin que sa maman le longe, le lave, le nourrisse. Il a passé par tous les étages de la croissance physique. Il est devenu adolescent, Jésus. Il est devenu un jeune adulte, Jésus. Et il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, Jésus. Un processus long de reconquête. Sûrement que Satan n'y a pas compris grand-chose. Quoique connaissant la Bible, il est incapable d'interpréter la Bible justement. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut plus que l'intelligence humaine. Il faut l'assistance de l'Esprit de Dieu. Et combien d'hommes et de femmes lisent la Bible sans rien y comprendre, parce qu'ils n'ont que l'intellect, ils n'ont pas la connaissance et la sagesse spirituelle communiquée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne la cherchent pas. Ils sont bloqués dans des raisonnements purement humains, charnels. Ils lisent la Bible, on lit la Bible, oui, même à l'université, pour étudier un peu la littérature de ces époques-là, tout en la critiquant. Frères et sœurs, comment lisez-vous la Bible? C'était un processus lent, pénible. Oui, pénible. Ne dites pas que la vie de Jésus ici-bas sur la terre était une vie de confort et une vie facile. Non. Ça serait, cette vie-là, une bataille, seul qu'il était. Une bataille contre toutes les puissances mauvaises. Une bataille ardue. Mais une bataille avec une victoire assurée. Alléluia. Avec une victoire assurée. Il est vainqueur plus que vainqueur. Et avec lui et par lui, nous pouvons être plus que vainqueurs. C'est-à-dire triomphant. Il y a la victoire, être vainqueur, et il y a le triomphe. Nous sommes triomphants par Jésus-Christ, notre Seigneur. Son royaume. Oui. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Non, il n'est pas de ce monde, quoique né dans ce monde. Il vivait bien avant. Il existait de toute éternité. Il n'est pas de ce monde. Son origine n'est pas de ce monde. Mais il a voulu venir dans ce monde pour accomplir sa mission. Et la mission, sa mission, c'était de sauver l'humanité. Pourquoi donc? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Hallelujah. Qu'il a donné. Il n'a pas pris, mais il a donné ce qu'il y avait de plus cher. De plus merveilleux. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, n'importe qui croit en lui, ait la vie, pas rien que la vie, mais la vie éternelle, sans fin. Avec la condition de croire en lui. C'est simple. C'est très simple. Mais voilà, l'incrédulité amené par Satan dans les cœurs, nous fait toujours hésiter. Et nous nous attachons à des choses compliquées, à toutes sortes de rites compliqués, mais inutiles. Personne ne peut travailler à son propre salut. C'est un don de Dieu. Il l'a donné. Parce qu'il nous aime. Oui, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Je suis d'ailleurs. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré par les Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde, n'est pas d'ici-bas. Tu es donc roi? Oui, je suis roi. Jésus répondit. Voici pourquoi je suis né dans le monde. Oh, il n'a pas bien compris. Pilate, bien sûr, quand il a dit « Je suis né », donc il a commencé à vivre à ce moment-là. Mais il vivait depuis longtemps déjà, de toute éternité. Oui, mais voilà, je suis descendu au niveau des hommes pour accomplir une mission qui est une bataille que je livre seul. Quel est l'homme qui l'a compris? Y en a-t-il seulement quelques-uns qui ont compris sa mission? Les disciples ont été tellement lents à comprendre et à saisir. Il a fallu qu'il ressuscite des morts et qu'il le voie pour commencer à comprendre. Mais le bouleversement de leur vie a été tel que chacun de ses disciples, ils ont préféré mourir en martyr. Plutôt que de leur renier, ils étaient sûrs. On ne va pas mourir pour une légende. On ne va pas mourir pour une superstition quelconque. Ils étaient sûrs et ils ne voulaient pas perdre ce qu'ils avaient gagné. Tous ses disciples sont morts martyrs, sauf un, Jean. Jean, il est mort très âgé, il était persécuté, il était jeté en prison. Il a été aux travaux forcés. Par les Romains, sur l'île de Patmos, Jean, il a eu des révélations extraordinaires alors qu'il était comme un esclave entre les mains des Romains jusqu'au jour où il fut libéré. Et il mourut plus tard à Éphèse, l'ancien Jean. Jésus, son royaume n'est pas de cette terre, c'est comme il l'a dit, mais le jour vient où il son royaume, donc, s'étendra jusqu'à la terre. Cette terre n'appartient pas à Satan. Jésus est venu pour la reconquérir. Et nous sommes toujours dans le processus de la reconquête de cette terre. Jésus était seul. Mais à cause de son sacrifice, son armée grandit de plus en plus. Et cette armée, c'est tous ceux qui ont cru en lui et qui sont sauvés par le sang de Golgotha. Ce sont des combattants dans les rangs de l'armée du roi des rois. Et le jour vient où il établira son règne sur cette terre, où il règnera de Jérusalem pendant 1000 ans sur cette terre avec les siens. Ce jour approche, croyez-moi. Son royaume, virtuellement, il a déjà commencé sur la terre. Son royaume, ce sont tous ceux. Un royaume est composé de sujets, pas vrai? Eh bien, pour l'instant, nous sommes, nous, sujets du royaume sur une terre qui est encore étrangère et dominée par l'ennemi. Mais cet ennemi sera chassé. Il sera chassé. Virtuellement, il l'est déjà par la croix de Jésus-Christ. Seulement, notre Dieu veut sauver le plus grand nombre d'hommes possible. C'est pourquoi nous prêchons l'Évangile en appelant les hommes à la repentance. Et nous ne prêchons pas une religion, non. Nous prêchons une personne qui est capable de nous délivrer des liens de Satan et du péché. Ne faisons pas de mélange inacceptable. Soit nous servons Dieu, soit nous servons Satan. Nous ne pouvons pas servir les deux à la fois. Son royaume, il s'étend déjà. Nous sommes enfants du royaume. Enfants du royaume, et il viendra nous prendre et débarrasser de cette terre de toute puissance mauvaise. Il revient bientôt. Ce jour approche. Quand cette terre sera inclue dans son royaume, le jour vient où cette terre fera partie de son royaume. Il disait, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mais bientôt, son royaume sera ici-bas. Et il a déjà commencé. Le royaume de Christ touche déjà ce monde par la présence du Saint-Esprit dans son Église. Et son Église n'est pas une religion chrétienne quelconque. Son Église, ce sont tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ par la foi et qui marchent en nouveauté de vie, transformés, changés, qui ont cru. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Luc 10, verset 9, « Le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il est important de distinguer entre monde en tant qu'entité morale et spirituelle ou esprit du monde et de distinguer entre monde en tant qu'entité physique, autrement dit la terre. Il y a deux choses bien distinctes. La culture du monde dans lequel nous vivons, c'est une culture qui est entachée par le péché, par la convoitise, par toutes sortes d'abus et de superstitions de ce monde. Dans toutes les cultures du monde, nous voyons des racines de paganisme et de superstitions de tout genre. La culture du monde, elle produit ce qu'elle produit à travers l'homme pécheur. Et on appelle cela de la mondanité. La mondanité, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde qui se manifeste de différentes façons. L'esprit du monde se manifeste de façon intérieure, dans la façon de parler, dans la façon de se comporter, dans les actions que nous faisons, que nous portons. L'esprit du monde est un un esprit qui influence la morale dans le monde, la justice parmi les hommes, un esprit de mondanité. Et cet esprit du monde se manifeste également à l'extérieur, à l'extérieur dans la façon de marcher à travers ce monde, dans l'orgueil, et aussi dans la façon de s'habiller. J'ai souvent mal au cœur lorsque je vois ces jeunes filles chrétiennes qui s'habillent comme le monde. C'est-à-dire selon la mode de ce monde. Vous voyez des petites jeunes filles avec des vêtements complètement collés sur le corps. Il n'y a que l'épaisseur du tissu qui représente une couverture. Cette épaisseur de tissu est collée sur le corps. Autrement dit, elles sont nues avec ce petit tissu qui est collé à leur corps. Ne vous étonnez pas, mes frères et mes sœurs, qu'elles suscitent toutes sortes de convoitises au milieu de ce monde pourri, avec des regards corrompus. Et ne vous étonnez pas qu'un jour, et ceci arrive trop souvent, que ces petites jeunes filles ainsi vêtues soient coincées quelque part par un jeune homme qui les viole. Vous pouvez pleurer, mais à qui la responsabilité? Attention, je ne dis pas qu'il faut s'habiller comme il y a 50 ans en arrière, ou comme du temps de Louis XIV, où les hommes portaient toutes sortes de vêtements bizarres avec des dentelles et des cols formidables. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais soyez décents dans votre façon de vous habiller, à plus forte raison quand vous venez dans la maison de Dieu. Et pourquoi pas aussi à l'extérieur? Il semble que vous cherchiez à attirer les regards des garçons sur vous. Quand ils vous voient passer, ils sifflent. Ouh! Mais pourquoi siffle-t-il? Parce que vous êtes belle? Non, il regarde votre corps et il y a la convoitise. N'est-ce pas vrai? Moi, je veux bien que ma femme me plaise à moi. Je veux la voir bien habillée. Oh oui, je veux qu'elle me plaise. Mais, mes frères, il y a une différence. Et nous devons faire attention. Nous devons faire attention dans notre comportement. Et vous, les hommes, les garçons, il y a aussi des garçons qui ont des façons de s'habiller, je vous assure. Vous n'avez qu'à regarder ces grands chanteurs qui ont leur nom prononcé par tout le monde. Regardez comme ils s'habillent. D'une façon, ma foi, qui n'est pas à glorifier Dieu, mais à glorifier la chair. Dans leur allure extérieure, à attirer les filles. Ça, c'est l'esprit du monde. Ça, c'est la culture du monde. La culture du monde, c'est l'esprit du monde. Et c'est un esprit sale, qui n'est pas propre. Je ne veux pas être un genre de policier qui va parler à toutes ces jeunes filles qui, certaines fois, sont habillées de façon agressive, avec des décolletés qui redescendent jusqu'à l'estomac, là. Je ne suis pas un policier. Mais attention dans notre comportement. Ne ressemblons pas au monde. Soyons jolis, d'accord, mais n'ayons pas l'esprit du monde. La culture du monde est ce qu'elle produit à travers l'homme pécheur, est ce qu'on appelle la mondanité. Lisons dans Romains chapitre 12, verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas au monde présent. » Ah, se conformer, c'est faire comme le monde. Voilà. S'habiller comme le monde, parler comme le monde, agir comme le monde. L'autre profite, moi je veux profiter. Mais l'autre profite sur quoi? Sur ce qui est illégal. Sur ce qui est mauvais, attention, ne vous conformez pas au monde présent. Glorifiez le Seigneur dans toute votre votre comportement, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un qui a l'esprit du monde, il prouve qu'il est stupide, parce que l'esprit du monde amène la stupidité et aveugle. Aveugle ceux qui ont cet esprit-là. Et ils ne voient pas de mal, disent-ils, de se comporter de telle façon ou de telle autre façon, alors que Dieu le désapprouve. Ta conscience, ta façon de comprendre les choses est tordue, biaisée par l'ennemi Satan. Dans Tite, au chapitre 2, verset 12, il est dit, « La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. » La grâce de Dieu. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qui nous est accordé. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. La grâce de Dieu, voilà ce qu'elle nous enseigne. À vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, et non pas comme des insensés ou des fous. D'une manière sensée, juste et pieuse. J'aimerais lire avec vous dans l'Apocalypse, au chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 10. Lisons ceci ensemble. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup. Le regarder, c'est-à-dire le lire. Je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. » Et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite et celui qui était assis de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Amen. « Et ils régneront sur la terre. » Tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront, c'est-à-dire qu'ils auront une autorité, ils régneront sur la terre. Amen. Nous avons ici une vision forte du ciel, telle que le voit Jean. Jean essaye d'exprimer l'inexprimable avec des mots humains, avec un vocabulaire humain, qui ne peut véritablement exprimer les choses éternelles. Il parle de choses qu'il essaye d'exprimer. Nous le sentons très bien, nous le voyons très bien, avec un vocabulaire humain. Et ce qu'il nous dit nous donne un aperçu de ce que Dieu fait. Dieu le Père, le Maître du ciel, est assis sur son trône. Autrement dit, il est à la place de l'autorité suprême. Il tient un livre dans sa main droite, dont chacune de ses sept parties, on pourrait dire chacun de ses sept chapitres, est scellé par sept sceaux. Pour lire ces chapitres, il faut briser le sceau. Pourquoi donc chacun de ces chapitres sont-ils scellés de cette façon? Pour que rien de ce qui est écrit dans le livre ne soit modifié par qui que ce soit. Dieu lui-même a pris la décision. Et celui qui doit appliquer ses décisions, qui est-il? Où est-il? Qui est digne de lire le livre et d'appliquer les décisions divines? Ce livre représente le plan de la libération de la planète Terre, de la libération complète de la planète Terre qui lui appartient, laquelle a été usurpée par l'ennemi, Satan, et aussi pour l'établissement du royaume dans lequel Jésus, le roi des rois, prendra possession et pouvoir par l'autorité qu'il possède. La terre et ceux qui l'habitent, c'est-à-dire son peuple, lui appartient. Tous les hommes appartiennent à Dieu, mais tous les hommes ne veulent pas appartenir à Dieu. Ceux qui lui appartiennent en propre, ce sont ceux qui ont mis leur vie en règle avec lui et qui ont dit non au péché. Quant aux autres, ils ont choisi Satan, l'ennemi, pour lui appartenir. Mais Dieu, dans sa miséricorde, avertit et appelle ceux qu'il a créés, car ce n'est pas Satan qui a créé aucun homme sur cette terre. Quoi qu'il veuille en prendre possession, aucun homme n'a été créé par Satan. Vous m'entendez? Aucun. Il n'a aucune puissance de création, Satan. Il n'a pas la puissance d'appeler le néant à quelque chose. Alors que mon Dieu, par sa parole, il crée toutes choses. Alléluia. Oh, mon Dieu est supérieur. Il est mieux de se mettre sous son autorité que sous le joug d'une créature, aussi puissante soit-elle, mais qui s'appelle Satan. Son peuple lui appartient en propre, car il l'a racheté. Mais maintenant, qui sera trouvé digne de prendre le livre? Le livre est d'en rompre les sceaux. Voilà. Il y a, pour ainsi dire, lorsqu'on lit ce récit que Dieu a voulu que nous connaissions, il y a pour ainsi dire un silence qui s'est fait dans le ciel et une expectation de tous. Jean nous dit ceci en Apocalypse 5:4. Je pleurai beaucoup, car nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder, ni de le lire. À cause du péché de l'homme, l'humanité et la terre entière a été corrompue. Aucun homme, quel qu'il soit, n'est digne de prendre le livre. Aucun homme n'est digne d'avoir l'autorité sur la terre et y faire régner et appliquer les exigences de Dieu. Adam a prouvé qu'il en était indigne. Et même Abraham, le père de la foi, n'est pas plus digne qu'Adam. Car Abraham a aussi connu le péché. Ni David, l'homme selon le cœur de Dieu, il n'est pas plus digne non plus. Et tous les grands personnages de l'histoire des hommes sur cette terre, aucun d'eux n'est trouvé digne à prendre le livre. et à le lire. Ni même les anges ne sont trouvés dignes, les plus grands comme les plus petits, car ils ne savent ce que c'est que d'être un homme. Il faut trouver un homme qui soit digne. Où est-il? Voici alors que le ciel attend dans l'expectation celui qui sera digne d'ouvrir le livre. Apocalypse 5, 5 à 9. Il est dit là, l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, ne te lamente pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Mais qui est-il ce lion de la tribu de Juda? Qui est-il celui-là parmi tous les hommes qui soit digne d'ouvrir le livre? C'est Jésus, le Messie, fait homme. Fait homme. Il a décidé de naître sur cette terre comme nous naissons sur cette terre. Il a décidé de vivre sur cette terre en prêchant le message de la délivrance du péché, de la maladie et des puissances mauvaises. Et à cause de son message, les hommes l'ont détesté et l'ont cloué sur une croix. Et il est mort, mais la mort ne pouvait le retenir. Il est ressuscité. Qui est ressuscité? Un homme avec un nouveau corps, comme les prémices de la résurrection. Jésus. Et là, la victoire est emportée sur Satan, qui ne savait pas qu'un nouveau corps serait donné à l'homme le jour de la résurrection. Tous les êtres angéliques, les humains et autres créatures qui se tiennent là, autour du trône de Dieu, sont dans l'étonnement à la vue de cet homme qui s'est identifié à un agneau, offert pour le sacrifice, comme cela l'était dans l'Ancien Testament, pour ainsi dire, en prévision, en image, en symbole de celui qui allait venir comme l'agneau de Dieu pour ôter les péchés des hommes. Il s'est identifié à un agneau offert pour le sacrifice qui s'avance là devant tous pour prendre le livre. Il est digne à cause de ce qu'il a fait. Il est digne à cause de l'amour qu'il a manifesté envers l'humanité et la volonté qu'il a eue de s'offrir lui-même. Personne ne l'a obligé. Le Père sur le trône ne mourra jamais. Il n'a ni commencement ni fin. Mais l'héritier, le Fils, égal au Père, qui n'a ni commencement ni fin. Fils, car incarné, il est devenu Fils dès le jour où il s'est incarné. Incarné est né d'une femme. Dieu qui est Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut créer cette vie sans la participation d'un homme, car il est Dieu. Né d'une femme. Et c'est pourquoi, dès cet instant, il fut appelé Fils, devenu chair. Il a connu la mort, lui, la mort physique. Il a été sacrifié afin que l'homme soit racheté par son sang pour Dieu le Père et pour le salut de l'humanité. Apocalypse 5, 9. Le salut des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Pas de restriction, pas d'exception. Le salut des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Personne n'est hors du plan de salut pour l'homme. Si tu crois, voilà, croire en Jésus-Christ, reconnaître son péché, abandonner son péché, demander pardon à Dieu, voilà, recevoir de lui la vie et rentrer dans son armée, car le combat n'est pas terminé. Quand Jésus est mort, Il combattait seul. Ses disciples même n'y comprenaient rien. Il a fallu qu'ils sortent du tombeau pour qu'ils commencent à comprendre. Et désormais, chacun de ces hommes était prêt à donner leur vie. Ils sont tous morts martyrs pour ce qu'ils avaient vu et connu. On ne meurt pas pour une légende. Pour ceux qui ont cru en lui et qui le suivent, il est dit dans Apocalypse 5, 10, « Tu feras d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voilà. Autorité. Voilà ce qu'il va donner à son peuple, à ceux qui ont combattu pour lui, dans son armée, dans le temps présent, combattu contre le mensonge, contre le péché, contre l'occultisme, contre les œuvres des ténèbres, contre le mensonge, qui ont combattu contre la magouille sous tous ses angles, contre la brutalité, contre toutes les choses qui nous affligent dans notre monde. Nous sommes un peuple différent des enfants de Dieu, appartenant au royaume des cieux. Nous vivons de sa vie. Le monde nous déteste, peu importe. Nous n'appartenons plus à ce monde, mais nous sommes engagés avec lui dans le combat, alors qu'il était seul au commencement. Aujourd'hui, il a une armée qui le suit. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ le Seigneur. Lui seul est digne de prendre le livre. Jésus est digne de prendre le livre de la main du Père. Et il règnera sur la terre durant 1000 ans et exercera l'autorité avec rigueur. Comprenez bien que l'Église, les enfants de Dieu, seront enlevés avant les jugements qui vont tomber sur cette terre pendant 7 ans. Et alors il reviendra avec ses saints, nous dit la parole de Dieu. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers en face de Jérusalem. Il y aura un grand tremblement de terre. Il viendra avec tous ses enfants sauvés par grâce qui auront revêtu leur nouveau corps pour régner sur cette terre à partir de Jérusalem, sur le reste de l'humanité qui aura passé à travers les jugements. Dans le psaume 2,9, il est dit « Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. » Dieu va mettre en pièces tous ces gouvernements corrompus du monde, tous ces dirigeants religieux et autres, menteurs et corrompus. Là, David, dans ce psaume, nous parle du règne du Messie qui jugera le monde et qui règnera pendant 1000 ans sur les nations et qui imposera, vous m'entendez, imposera, ce n'est pas une démocratie, qui imposera son règne sur les rebelles de la terre. Mais dès que nous entrerons dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, qui ne formeront qu'une seule entité, après 1000 ans du règne sur cette terre de Jésus-Christ à partir de Jérusalem, il n'y aura plus de sceptre de fer ni de vase de potier mis en pièces, car il n'y aura plus de rebelles. Sur cette terre, pendant 1000 ans, il y aura encore des rebelles. Oui, parmi ceux qui vont naître des hommes dans une société combien plus différente et meilleure que la nôtre d'aujourd'hui, toute la nature reprendra sa place. Le monde sera géré avec justice et droiture. Les lois seront appliquées avec rigueur. Voilà. La Bible nous dit qu'en ces jours-là, la vie de l'homme sera multipliée, beaucoup plus longue qu'actuellement, et qu'un homme qui mourra à 100 ans, il mourra jeune, mais il mourra à cause de son péché. Voilà. Voilà. Il y aura un règne de 1000 ans du Messie de Jésus-Christ. la victoire sur le péché, sur la rébellion, sur la mort, que Jésus va manifester pendant son règne sur cette terre pendant 1000 ans, ne veut pas dire que désormais c'est la fin de l'autorité de Christ après 1000 ans. Du reste, nous voyons qu'à la fin des 1000 ans, Satan va séduire encore une partie de l'humanité, de ceux qui ont subi le règne de Christ sans l'accepter. Ce sera la fin de son règne sur cette terre que nous connaissons, règne contesté et subi par une partie de l'humanité rebelle. Cette partie de l'humanité se ralliera encore à Satan. Et il y aura cette dernière grande bataille de Gog et Magog en ce temps-là. Cette dernière grande bataille où les hommes qui ont suivi Satan dans cette rébellion seront écrasés à le jugement dernier où la place de chacun sera dans les temps de feu et de soufre avec Satan et le faux prophète. Ce sera alors le commencement du royaume éternel qui prendra place sur la nouvelle terre avec Jésus, le roi et le Seigneur de toutes choses. Frères et sœurs, faites-vous partie de ce royaume maintenant. Seront membres de son royaume éternel ceux qui aujourd'hui choisissent de faire partie de ce royaume, ceux qui aujourd'hui ne choisissent pas de vivre selon la culture de ce monde, une culture et un esprit corrompus, mais qui ont choisi de vivre selon la nouvelle culture du royaume des cieux, ceux-là feront partie, déjà maintenant font partie de son royaume. Mais il s'agit là d'une décision personnelle qu'on fait maintenant. Après, ce sera trop tard. As-tu fait cette décision? Baissons la tête. J'ai mis devant vous aujourd'hui tout le plan de Dieu, du moins une partie du plan que je puis comprendre tel que Dieu nous l'a enseigné dans sa parole. Mes frères, faites-vous partie de son armée? Avez-vous pris cette décision? C'est ici-bas, sur cette terre, que la décision doit être prise. Si tu ne fais pas partie de cette armée, de ce peuple sauvé par grâce, en vous joignant à lui, et que vous voulez aujourd'hui changer de route, levez-vous là où vous êtes pour exprimer votre désir de faire partie de cette armée. Il vous appelle aujourd'hui, il recrute encore, veux-tu, lève-toi, afin que nous prions pour toi. C'est une décision personnelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, oh mon Dieu, béni. Seigneur, donne à chacun de prendre une décision avec sérieux, car le grand jour vient, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas mélanger les choses profanes et les choses saintes. Soit nous sommes dans la culture de ce monde, les habitudes du monde, soit nous vivons avec Jésus dans la nouvelle société et nous appartenons à son armée et nous acceptons le combat. Le repos, ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Il nous appelle aujourd'hui à le joindre dans son armée. Y en a-t-il d'autres encore? Merci Seigneur pour tous ceux qui se lèvent à travers cet auditoire. Seigneur, c'est peut-être une décision qu'ils prennent aujourd'hui qui va influencer toute leur vie, changer le cours même de leur existence. Oui, ça va changer le cours de votre existence. Si du moins vous persévérez ce premier pas aujourd'hui, veut dire qu'il y en a d'autres qui vont suivre, vous repentir, croire en Jésus, marcher dans l'obéissance de sa parole, avec lui, en le servant, en vérité. Ne mélangez pas les choses. Frères et sœurs, ô mon Dieu, je t'apporte ces hommes et ces femmes qui se sont levés ici ce matin. Veuille, Seigneur, dans ta grâce, les recevoir. pardonner leurs péchés, leur vie dissolue et tant de choses, Seigneur, que leur conscience leur reproche. Ô Dieu, transforme-les, change-les, Seigneur. Ils engagent un combat, mais Seigneur, tu es avec eux et tu as vaincu pour chacun d'eux. Ô mon Dieu, donne-leur d'être sérieux vis-à-vis de la décision qu'ils prennent ce matin. Au nom de Jésus, merci Père, reprenez vos places. Le Seigneur sanctifie maintenant l'offrande et les dîmes qui te sont présentées. Ô Jésus, 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 tu vois que les hommes mettent de la valeur dans ces billets qui souvent sont très sales. Ils mettent de la valeur dans ces morceaux de papier. Ô mon Dieu, et que beaucoup travaillent, mais leur salaire est un salaire de misère. Ils donnent pour la gloire de ton nom. Seigneur, bénis-les, bénis-les. Et Seigneur, avec ces choses que nous utilisons aujourd'hui, permets que nous puissions avec sagesse utiliser cet argent avec ta direction pour un rendement maximum à la gloire de Dieu pour le salut des perdus. Ô Jésus, cet argent est sacré. Quoique cet temps étant représenté par des bouts de papier souvent sales, ô mon Dieu, me permets que le maximum puisse être retiré de cela et que rien ne manque à ceux qui ont donné. Merci Père, sanctifie cette offrande au nom de Jésus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.